Bonjour à tous. Donc on va faire une rencontre avec, avec Jérôme Noirez. C'est un plaisir de vous voir ici et de vous avoir, Jérôme, de t'avoir, Jérôme, parmi nous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, as écrit des romans de fantasy principalement, mais où la question de la technologie est aussi extrêmement présente, en tout cas dans Féerie pour les ténèbres. Tu as aussi reçu en 2010 le Grand Prix de l'Imaginaire pour ton recueil de nouvelles, Le Diapason des mots et de la douleur. Déjà, on va commencer de façon assez classique pour essayer de voir quelles sont tes références littéraires et comment tu en es venu à l'écriture.
Est-ce que tu peux... c'est une question.
Oui, c'est une question pour essayer de savoir.
Comment j'en suis venu à l'écriture Alors, l'écriture, je l'ai toujours pratiquée en vérité. Mais je l'ai pratiquée sans aucune volonté de publication. Je l'ai pratiquée comme un loisir pour combattre l'ennui. L'ennui adolescent. C'était un bon moyen, je crois, à ce moment-là. Et c'est venu très beaucoup plus tardivement, passé la trentaine en fait, je me suis dit purée, j'écris, je passe des heures et des heures à écrire et peut-être que par miracle je pourrais en tirer un petit revenu. C'était très, c'était un souci comme ça d'ordre pécuniaire. Et voilà, j'ai envoyé un manuscrit chez un éditeur et puis zou. À partir de là. J'en ai fait mon métier.
Quel était ton premier texte que tu as fait publier et comment tu le reverrais maintenant avec le recul?
En fait, le premier travail romanesque que j'ai publié, c'est Féerie pour les ténèbres. Donc, qui a connu plusieurs incarnations depuis, c'est-à-dire j'ai dû sortir ça en 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. Et puis, ça a été un échec total, et malgré un retour critique excellent, etc. Et puis, ça a été redécouvert, quoi, quelques années plus tard, presque une dizaine d'années plus tard. Et republié en espérant aller enfin vers un lectorat dégénéré, enfin vous quoi. Et voilà comment ça a démarré.
Le titre de la conf parlait du zoo cosmique par rapport à l'un de tes romans, enfin une série de romans qui s'appelle justement le zoo cosmique où une jeune fille accompagne son père vétérinaire. Enfin, exo-vétérinaire, c'est ça le terme, il me semble, pour soigner les plus grandes bestioles de la galaxie. D'un côté, le texte est très joyeux et au final très positif, mais dans d'autres textes, on sent quelque chose de plutôt dans tes textes adultes, mais aussi dans Sam, qui est un album pour la jeunesse, des choses plus sombres. Est-ce que tu vois une espèce de dichotomie entre ce qu'il y a à dire à la jeunesse et peut-être une analyse de ce qui ne va pas dans notre société au niveau de tes romans adultes et quelque chose de plus positif pour la jeunesse ou c'est quelque chose qui est venu plutôt naturellement et sans objectif particulier?
En l'occurrence, Zoo Cosmique, c'était pour de la jeunesse et pour des gamins de fin de primaire, quoi. Donc on était là dans une forme d'écriture tout à fait spécifique. Disons que je pars de principe que des gamins de 10-11 ans, on va pas tout de suite leur plomber les quelques espoirs qu'ils peuvent encore avoir sur l'existence. Passé un certain âge, passé 14-15 ans, 13-14-15 ans, je pense qu'on peut leur dire la vérité. Voilà. Mais bon, à 10-11 ans, on peut encore un petit peu leur mentir. Et puis ça me faisait plaisir à moi aussi, quoi. J'ai encore plaisir à un peu de naïveté. Mais fondamentalement, je ne le vis pas comme une dichotomie du tout. Pour moi, j'ai, disons, dans ce que j'ai écrit dans Zoo Cosmique, là, donc, c'était une première pour moi d'écrire pour des gamins si jeunes. voilà, j'ai tu simplement la part sombre des autres, de mes autres travaux. Mais ça pétille toujours, c'est-à-dire on peut être extrêmement désespéré et aimer quand même se fendre la gueule, quoi. Au contraire même. Enfin,
bien sûr, même si tes textes sont, certains de tes textes sont assez sombres, il y a toujours un attrait extrêmement fort à l'humour dans tous tes textes.
Oui, bah parce que ce qui est horrible est très drôle en fait, l'existence est globalement horrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, moi je trouve que c'est globalement horrible, mais ça n'empêche pas de se fendre la gueule, vraiment. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec une... Vous allez me dire, c'est une horreur, c'est très relative. Je montais à l'étage avec une tasse de café brûlant à la main et je me suis magistralement pané la gueule dans l'escalier. Donc à la fois, je me suis aspergé le visage avec du café brûlant, les cuisses aussi, enfin c'était... Et le mur, originellement blanc, donc, a viré au marron. Je me suis tordu la cheville, etc. Et j'étais plié en deux, arrivé en bas de l'escalier. Et c'est un peu ma vision de l'existence, voilà.
Ça marche. Dans tes références que je te demandais tout à l'heure, il me semble que Lewis Carroll a plutôt une place importante. Tu as écrit Le son d'un monde fluctuant, qui se base sur une uchronie sur sa vie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi l'avoir mis en scène lui et pourquoi en mode d'un roman uchronique plutôt que, je ne sais pas, de la littérature générale ou...
Ça aurait pu être de la littérature générale, je crois. C'était même le projet initial, oui, c'était de raconter... Le projet initial était très chiant, en fait.
Et donc, amusant, alors.
Voilà. Alors, c'était assez chiant. Moi, ça m'excitait de l'écrire, mais après coup, je me suis dit que ça allait ennuyer les lecteurs. Je voulais raconter un moment, une journée particulière de la vie de Lewis Carroll. Une journée assez banale, quoi, où il a pris une photographie que je trouvais particulièrement intéressante et j'avais envie de raconter cette journée-là. Et voilà, à la réflexion, je me suis dit, bon, déjà, je ne vends pas beaucoup de livres, alors je vais essayer d'injecter là-dedans de l'aventure. Et je me suis dit, bah tiens, Lewis Carroll, ce serait amusant de projeter dans une sorte d'aventure exotique. Voilà, j'avais l'idée aussi, quand même, qu'il y avait une dimension dans Alice, dans les deux Alice, une espèce de dimension chamanique, de voyage chamanique. Et de là, j'ai fait cette sorte d'uchronie étrange où Lewis Carroll, oui, et se retrouve banni d'Angleterre, finalement, et il se retrouve dans une grande terre qui pourrait être Madagascar, mais qui n'est pas Madagascar, qui est une autre, qui n'est pas située exactement au même endroit de l'océan Indien. Et où il va vivre une aventure tragicomique aussi. Hein, voilà.
Il y a dans le Alice au Pays des Merveilles, bien sûr, ce côté d'évasion. Il y a aussi le côté de vulgarisation, tous ces personnages qui reviennent pour lui donner des leçons. Et puis c'était aussi l'objectif, il me semble... De parler de leçons à des jeunes filles que dans ce livre, alors que toi tu prends le pli plutôt de l'évasion, de l'aventure dans ton bouquin. Il y a même presque un côté assez étrange dans le titre même, Leçon d'un monde fluctuant. On peut pas vraiment donner de leçons sur un monde fluctuant, parce que s'il est absolument fluctuant, au final il est forcément impossible d'y imposer des règles et du coup d'en donner des leçons. C'est un peu comme l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique de Kant. Comment du coup t'es venu cette volonté de plutôt partir sur le côté évasion plutôt que parler de Lewis Carroll vulgarisateur?
Bah, c'est une logique biaisée, quoi. C'est omniprésent dans l'œuvre de Lewis Carroll, la logique biaisée, la logique non fonctionnelle, quoi, finalement. Et c'est le thème omniprésent. J'avais aussi envie de porter un regard assez aigri sur l'éducation et sur le système éducatif. Un regard que porte Lewis Carroll aussi, d'ailleurs, sur l'environnement. J'avais une image, en tout cas, de cet environnement oxfordien qui était d'une pesanteur quasi fasciste. Et j'avais envie aussi d'aller dans cette direction-là, d'exploiter ça. Ça ne répond pas du tout à ta question, mais ce n'est pas grave.
Du coup, tu penses que c'est le rôle de la littérature jeunesse que d'essayer de justement briser ce côté lourd de la scolarité ou de l'éducation, ou est-ce que justement l'évasion que peut apporter la littérature est plutôt un pendant qui est nécessaire à cette jeunesse en apprentissage?
Alors moi d'abord je ne pose aucun rôle à la littérature jeunesse, quoi. Ça, je vois pas pourquoi il y aura un rôle spécifique à la littérature jeunesse que n'aurait pas la littérature vieillesse. Donc pour moi c'est la même chose dans les deux cas. Il s'agit d'écriture, il s'agit de littérature, il s'agit de narration. Point barre. Après il y a une autre chose que je fuis dans la littérature jeunesse, c'est tout ce qui serait de l'ordre du pédagogique. Au secours, quoi, quelle horreur. Enfin, un roman jeunesse n'a pas à avoir de fonction, du tout d'ailleurs, et certainement pas de fonction pédagogique. Là, il y a les bouquins de l'école qui sont là pour ça, quoi, mais certainement pas un roman.
Mais est-ce qu'on peut parler de valeur pédagogique, d'utilité pédagogique dans de la vulgarisation, si l'objectif est de faire un peu de vulgarisation, on n'est pas forcément dans quelque chose qui a comme objectif d'être pédagogique.
Si. Bon, la vulgarisation, c'est une volonté pédagogique.
Oui, mais quand elle est faite par la littérature, comme dans le Alice ou comme dans beaucoup de romans de SF. Est-ce que dans ces cas-là, on parle de pédagogie, ou est-ce que on...
Je sais pas, moi, je vois pas du tout de pédagogie dans Alice, hein. Pas du tout. C'est une histoire relativement abracadabrante. D'abord racontée à une enfant, sans volonté pédagogique. Justement, il se détache de toute volonté pédagogique, moi, je trouve, dans Alice. Alors que c'est un pédagogue, Lewis Carroll, mais pas dans sa littérature. Tu n'es pas d'accord?
Non, je ne suis pas d'accord, mais c'est pas moi le cœur de cette conférence. Moi, je pense que la plupart des leçons et le fait même de cette écriture, la création de ce roman, de cette histoire qu'il racontait à ses deux petites dans une barque à la base, avant même l'écriture de ce roman, dont l'objectif était aussi de leur faire réviser leurs leçons, par justement toutes ces leçons qui reviennent, et en même temps leur faire comprendre qu'on pouvait apprendre sans forcément s'ennuyer, par des biais que peuvent être l'évasion, la littérature, l'aventure, et qu'au final c'était la plus grande des forces d'un pédagogue que de faire de la vulgarisation sans même qu'on s'en soit aperçu.
Alors moi j'ai jamais vu de pédagogie dans Alice au Pays des Merveilles. Il faudra qu'on travaille ensemble sur le sujet, parce que je vois pas à quel moment d'Alice au Pays des Merveilles. On a plutôt un univers extraordinairement anxiogène, un environnement incroyablement anxiogène. C'est terriblement inquiétant, quoi, l'univers qu'elle traverse, Alice. Et face à cet univers anxiogène, presque psychiatrique, pathologique, on a une héroïne qui est la raison même. Elle est tout le temps dans le rationalisme. Et c'est sa grande force, d'ailleurs, à cet enfant, c'est d'opposer à cet univers de démence la raison en permanence. Enfin, c'est toujours ce qui m'a épaté, d'ailleurs, dans Alice. C'est la grande puissance de cette héroïne. C'est une héroïne forte, Alice. Alors qu'il va créer une héroïne plus tard dans Sylvie Bruno, qui est un texte beaucoup moins connu, hélas, parce qu'il est remarquable aussi, de Carole. Et une héroïne qui, là, sera extrêmement pâlichonne. Et beaucoup plus, d'ailleurs, beaucoup plus dans le prototype de la petite fille dans les récits pour enfants. Alors qu'Alice est d'une extraordinaire modernité, justement.
Ça permet une magnifique transition sur la qualité des... de tes personnages féminins, c'est quelque chose de très présent et que qui dont on va souvent voir une s'échapper de la domination patriarcale, notamment je pense à Kematia dans le son justement. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment cette problématique t'as appris à bras de corps et comment faire pour bien l'intégrer dans des récits, à ton avis?
C'est-à-dire que comme fondamentalement on est dans une culture patriarcale, et même à mon sens patriarcale, le mot n'est même pas assez fort, on est dans une culture profondément phallocrate. J'aime bien le mot phallocrate. C'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, qui est devenu un peu ringard, mais qui dit profondément ce qu'est cette culture, c'est-à-dire la culture du phallus. Ça se voit à tous les niveaux culturels, architecturalement parlant aussi, quoi. Il y a une espèce d'obsession phallique dans nos cultures, je trouve personnellement navrante, dégoûtante, voilà. Et très naturellement, j'ai des personnages qui se heurtent à ça. C'est-à-dire que dans un récit, obligatoirement, un personnage féminin est plus dramatique qu'un personnage masculin. Parce que il aura ce personnage féminin aura à se heurter à plus de difficultés pour se transcender. Donc je pense que les héroïnes sont obligatoirement plus héroïques que les héros.
Et du coup, sur l'aspect de le traiter en tant dans la littérature ou de façon générale dans l'art, mettre en scène une héroïne féminine est effectivement plus compliquée vu la domination qu'elle subit par l'univers, mais est-ce qu'on ne peut pas dans les récits d'imaginaire tout simplement parler et imaginer des mondes dans lesquels cette domination n'existe pas, ou de façon générale la domination alors phallocratique, patriarcale, mais aussi la domination racisée sont tout simplement inexistantes, histoire de montrer que des mondes possibles existent sans ces dominations? Ou penses-tu qu'il est plutôt nécessaire de les montrer?
Je veux dire, on peut, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse, voilà. Mais on peut. Alors, de même qu'on pourrait décrire un matriarcat, mais finalement, la description d'un matriarcat, à mon avis, serait constitutive d'un roman extrêmement phallocrate. Voilà. Donc, il y a autre chose qui m'intéresse dans les personnages féminins, et qui est lié à un intérêt plus global chez moi pour la corporalité, le corps. Je ne suis pas du tout un écrivain de la spiritualité, je suis vraiment un écrivain du corps. Et je trouve que les femmes ont une aisance dans la parole à l'égard du corps que n'ont pas les hommes. Et je prête toujours l'oreille, justement, à la facilité du langage du corps chez les femmes, alors que les hommes rament beaucoup, enfin, sortis de l'orbite, quoi. Au-delà de ça, ils ont beaucoup de mal à parler de leur corps.
C'est probablement parce que je suis un homme, mais du coup, comment mettre en littérature cette parole du corps, alors que on peut, je pense, beaucoup plus facilement l'imaginer dans le cinéma ou...
En parlant du corps, en ayant une grande méfiance à l'égard du psychologique, personnellement, je pense qu'on peut faire totalement l'impasse du psychologique, c'est-à-dire de la pensée intérieure dans le récit. Idéalement, même moi, j'ai du mal à le faire, mais c'est l'espèce d'idéal quand j'écris. C'est d'être toujours dans la vision extérieure des choses. C'est-à-dire, moi, la psychologie, j'essaye de la faire passer par des attitudes ou par des paroles, mais j'évite les voix intérieures. Je suis allergique aux voix off au cinéma. Ça me fait fuir immédiatement la voix off dans un film. Et je suis un peu allergique à ça aussi dans la littérature. structure, même si c'est extrêmement difficile d'échapper à ça.
D'échapper à la pensée, en fait.
Oui, d'échapper à la pensée. Mais c'est bien d'avoir des objectifs, même si on ne les respecte pas.
Mais bien entendu. Et du coup, on voit que tu portes quand même de nombreuses idées dans tes romans, mais on a dans tous ce côté d'aventure, d'évasion. Comment t'écris ? Est-ce que t'es plutôt structuraliste à faire de nombreux plans, ou est-ce que tu te lances plus naturellement, ou tout simplement un mix, parce que en fait c'est des caricatures et ça n'existe pas vraiment.
Si j'étais le seul écrivain au monde, je dirais que c'est des caricatures et que ça n'existe pas vraiment, mais visiblement ça existe. C'est-à-dire il y a des gens qui ont une attitude effectivement structuraliste et d'autres plus libres. Vraiment, moi, ça dépend des romans. En tout cas, un structuralisme très poussé. D'ailleurs, ma manière de structurer les choses se limite à l'usage de post-it. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser beaucoup plus de papier que moi pour structurer. Moi, voilà, je pose des post-it. Et alors, le problème, c'est que j'ai un mur en plus qui ça tient mal sur mon mur, sur le mur de mon bureau, donc il tombe. Et ensuite, je les recolle, mais dans le désordre. Ça peut avoir des effets intéressants. Et puis sur certains bouquins, je suis en impro total. Ferry pour les ténèbres, qui est un machin qui fait quand même 1600 pages ou un truc comme ça, c'est 1600 pages de free jazz.
D'accord. Ouais. En parlant de free jazz, et il me semble qu'il y a un vrai lien.
Vu comme je te tends des perches magnifiques.
Ouais, tu as une force.
J'ai une habitude, une maîtrise comme ça.
Tu as beaucoup étudié la musique, en accompagnes beaucoup de tes textes en les mettant en ligne. Comment tu travailles ? Est-ce que tu as d'abord la musique et après le texte ? Est-ce que comment t'es venue cette idée de travailler ensemble ? Est-ce que c'était tout simplement naturel ? Et puis surtout, comment tu procèdes ?
Disons que la musique, c'est ma c'est une pratique quotidienne chez moi, ouais. Chez moi aussi, ou quasi quotidienne. Donc naturellement, je me suis amusé à certains moments, mais c'est des envies puériles, hein, d'adaptation cinématographique et d'avoir des musiques de générique. Au départ, c'est de cet ordre-là, vraiment. Je me suis dit, j'ai écrit cette incroyable aventure, et maintenant, je veux un générique, quoi, ou un générique de fin avec le casting et tout ça.
Mais c'est réellement réussi.
Je balance des musiques. Donc j'ai pris cette habitude, ouais. Alors je le fais pas systématiquement, mais de composer des musiques autour des romans. Non, c'est a posteriori. Hein, je le fais après. Par ailleurs, de la musique, j'en écoute pas en écrivant, jamais. Déjà, j'écoute très peu de musique, mais alors surtout pas en écrivant. Donc voilà, c'est un à côté ludique. Ça m'amuse.
On en parlait juste avant, et c'est ce que je disais. Il y a vraiment un côté musique de film dans ce qu'il fait, et je vous invite réellement à passer sur le blog de Jérôme Noirez et à vous immerger des sons qui sont disponibles
sur le site, parce que sur ma page. Parce que le blog, je crois pas que j'ai mis des musiques.
Je pense que je ne fais pas très bien la différence entre un blog
non,
et un site.
Non, mais moi non plus, en fait, c'est bien mon problème. Donc.
Et je vous conseille réellement, c'est plutôt sur des cordes et mêlées de musique électronique, les morceaux que j'ai pu écouter. Moi j'y ai vu des références, mais on n'était pas d'accord tout à l'heure, mais plutôt au rock psyché. Donc on va juste parler de Chambure et l'Alarm Clock, et voilà, moi, j'ai aussi fait les parallèles avec les dernières musiques électroniques de David Lynch, des choses très cinématographiques. C'est vraiment très intéressant, et je vous invite à vous y pencher.
Voilà, je fais des musiques comme David Lynch, donc n'hésitez pas. Bon, en même temps, c'est pas la référence musicale la plus excitante que j'aurais aimé.
Non, mais je suis confus, je fais avec ce que j'y connais, je n'écoute pas forcément. Mais c'est réellement
bien. Mais je connais,
Ce que fait David Lynch est vraiment passionnant en musique. Son album Crazy Clown Time est absolument formidable, et je vous invite aussi à aller écouter ça. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Le type, quand il décide d'arrêter le cinéma, il se met à faire des trucs pas mal.
Voilà, moi j'ai décidé d'arrêter de faire du cinéma aussi, mais assez jeune en fait.
Mais plus jeune, tu faisais. Il me semble que tu as bossé sur sur Retro Future, qui est un jeu de rôle. Tu peux. Tu es toujours rôliste.
C'est majeur. Pas du tout, non. Mais j'avais déjà. C'est vrai que j'ai pratiqué ça, le jeu de rôle, quand j'étais. Au lycée, quoi, lycéen, ce qui m'a valu d'ailleurs de faire deux premières. Parents, méfiez-vous de vos enfants rôlistes qui branlent rien à l'école. Et puis, il s'avère que plus tard, on m'a. Comme je suis un grand amateur de l'écrivain William Burroughs, et que ça s'était, je sais pas, ça s'était su, c'était arrivé aux oreilles de gens chez. Un éditeur de jeux de rôle qui s'appelait Multisim, qui a fermé ses portes à l'époque, on m'avait demandé de travailler sur les éléments d'un univers de jeux de rôle. Moi, j'ai pas travaillé sur les règles. D'ailleurs, j'avais lu les règles, après, j'avais rien compris, donc je sais pas du tout comment on pouvait jouer à ça. Mais j'avais travaillé sur l'univers et sur la partie la plus bizarre de l'univers, quoi. Voilà. Ce qui était très plaisant, enfin, moi, je trouve ça très bien. Ils ont édité très récemment le livre univers, ils en ont fait un très beau livre là chez Mnemos.
Europol ?
Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et j'en ai écrit presque la moitié de ce truc là, je pense. Ouais, un bon tiers en tout cas, un bon tiers.
J'ai pas réussi à trouver qui étaient les autres, puis il y a marqué Jérôme Noise et Collectif.
Bah ouais, c'est le seul mec connu de la bande. Et non, il y a Raphaël Granier, il a un nom à rallonge là. Il y a Tristan Lhomme, enfin il y a des gens comme ça qui ont travaillé dessus.
Mais c'est une époque très intéressante parce qu'à Multisim sont sortis beaucoup d'auteurs maintenant qui sont parmi l'ensemble du milieu de l'imaginaire. On pense bien sûr à Fabrice Collin. Ouais, ouais, ouais. Y a aussi des éditeurs, enfin Stéphane Marsan qui est éditeur chez Bragelonne et Frédéric Veil qui maintenant dirige Mnemos viennent aussi de Multisim. Tu penses qu'il y a quel lien on peut faire entre le jeu de rôle et la littérature, sachant que le processus narratif en lui-même du jeu de rôle est vraiment différent du livre.
Le processus narratif en jeu est différent, mais à la limite, le travail d'écriture scénaristique est du même acabit que pour une écriture scénaristique de bande dessinée, de roman, une écriture de synopsis au moins.
Je sais pas, parce que l'objectif est pas tellement d'avoir une histoire qui se suit à l'écriture, puisque si on fait ça, on a un maître de jeu très cinématographique et au final on scripte et on fait juste jouer des aventures qu'on a précédemment écrites.
Ouais, mais c'est un peu comme ça que je faisais moi quand j'étais au lycée. Donc
je sais pas, moi je le vois plutôt d'un point de vue où le jeu de rôle a plutôt tendance à vouloir créer des climats et des timelines qui de toute façon vont arriver si les joueurs ne s'y intéressent pas, et que au-delà de ça, à partir de l'implication du joueur, ces timelines divergent à partir des événements, et celles qui n'ont pas été touchées de toute façon restent les mêmes, mais du coup on raconte pas forcément une histoire pour l'histoire dans la littérature. Le processus narratif n'est pas forcément très intéressant, l'objectif c'est l'histoire, alors que dans le jeu de rôle le cœur même c'est le processus narratif, l'objectif c'est le moment où on est en train de jouer, c'est pas la préparation où on écrit le scénario, mais davantage le moment du jeu, le processus narratif en lui-même qui est l'objectif, alors que l'histoire est au final sur le côté, puisque l'histoire finale n'est pas forcément ce vers quoi on va tendre, mais plus le moment de la partie. C'est principalement pour ça que raconter une partie de jeu de rôle c'est souvent chiant, et que beaucoup de romans qui tendent à raconter une partie de jeu de rôle échouent.
Existe ça ?
Oui,
ça. Oh la vache, alors, ça doit être.
Je lis beaucoup de manuscrits.
Il y a des
manuscrits pour...
qui disent machin, remange des cacahuètes, se prend une deuxième poignée de cacahuètes. Je crois qu'on mange beaucoup de cacahuètes dans le jeu de rôle. Hein, et de...
Je travaille dans une maison d'édition et du coup en manuscrit j'en reçois pas mal. Et
ah oui, oui, mais tu les publies pas, pas après, voilà.
Mais certains sont publiés, mais ouais, ouais. Mais du coup, souvent ça échoue, pas toujours, mais certaines personnes qui, je pense, et c'est l'objectif est de raconter l'histoire qui s'est passée, mais au final, comme le processus est différent, l'objectif, enfin, je sais pas, je parle trop. Je suis
non,
désolé.
non, mais j'ai pas d'avis parce que je connais pas très très bien la question, quoi, en fait, je Il me semble que l'écriture scénaristique de jeu de rôle, c'est un bon exercice, comme tout exercice d'écriture avec contrainte. Voilà. Mais c'est tout. Enfin, c'est vrai que ça, c'est pas ça qui fait des romanciers. Mais que des romanciers en devenir se soient intéressés à l'écriture scénaristique de jeux de rôle, ça m'étonne pas.
Et peut-être plus, plutôt que des pratiquants, plutôt des créateurs d'univers de jeux de rôle. Parce que ce qu'on voit, c'est même dans les nouveaux auteurs, comme Romain Duissier qui vient faire paraître un roman, ou Julien Elbrook de Stoner Road, on voit que ces gens-là ont bossé sur de nombreux jeux de rôle avant, et maintenant se mettent à la création de romans. Mais on voit rarement quelqu'un qui dit bah oui, moi j'ai commencé en faisant plutôt de la maîtrise de jeux de rôle. Il y a quand même eu le passage à la création de l'univers avant le passage à la création de romans. Je sais pas
non plus. C'est-à-dire que le jeu de rôle, enfin vraiment, ça fait j'ai un âge vénérable maintenant, et donc ça fait de nombreuses décennies, on peut parler en décennies, que j'ai pas joué, quoi. Je serais incapable d'ailleurs de faire une partie. Je pense que au bout de 10 minutes, j'aurais fini les cacahuètes et j'irais faire autre chose. J'arriverais pas à marcher là-dedans. C'est comme jouer aux cowboys et aux indiens, quoi. Je trouvais ça très cool quand j'étais enfant, mais j'arriverais plus maintenant. J'arriverais plus à faire le. Voilà, la vie est trop pesante, tu comprends, je peux plus faire le jeu de rôle.
Du coup, on va parler un peu, on va retourner un peu à tes bouquins. Comment tu as créé Féerie pour les ténèbres, qui, alors, à mon sens, mais du coup, tu me dis que ça a échoué à la base, mais je n'étais pas au courant du parcours éditorial. Mais toi, comment tu as voulu le créer? Comment s'est passé les tout débuts? Peut-être qu'on...
Je sais pas, les tout débuts de l'écriture de ce truc-là. Moi, j'ai fonctionné, à ce moment-là, je fonctionnais encore, ça m'arrive toujours d'ailleurs, c'est une de mes méthodes de travail. Il s'avère que c'est pas le cas visiblement de tout le monde. Je pensais que c'était le cas de tout le monde quand j'étais enfant, mais non, c'est quelque chose qui est plutôt rare. J'ai une mémoire très précise de mes rêves. Et donc, si je rêve, vous savez qu'on rêve plusieurs fois par nuit, il y a plusieurs phases de sommeil paradoxal, et la plupart du temps, on garde très peu une mémoire très, très éphémère, quoi, des rêves. Et moi, j'avais cette capacité Non, maintenant, il y a les soucis dus à l'âge, etc., qui font que je me souviens moins. Mais chaque nuit, pour moi, c'était comme de m'être tapé un festival de cinéma. Vraiment, je ressortais chaque matin, gamin, je ressortais de là presque épuisé par ma nuit, par la masse d'images, de décors, de situations. Et c'est ça, principalement ça, qui a été le moteur de l'écriture. Et Féerie pour les ténèbres, j'ai utilisé vraiment cette méthode-là qui est d'agglomérer des rêves disparates en un univers cohérent. En essayant de le rendre le plus cohérent possible. Voilà. Donc, très souvent, j'écrivais un chapitre qui correspondait à un ou deux rêves, et je pouvais attendre 2-3 jours avant d'avoir le rêve adéquat pour écrire le chapitre suivant. C'est cette méthode-là que j'ai utilisée sur 1500 pages, donc ça m'a pris quand même 2-3 ans pour l'écrire, ce gros machin. Et ce qui fait que c'est un univers qui répond à ses règles propres. Voilà.
Dans cet univers, il y a ce qu'on appelle des poussées de la technol, du monde en dessous, qui permettent au final d'écrire dans un roman de fantasy, où on est sur où on a une vision presque destructrice de l'arrivée de la technologie de façon extrêmement rapide, puisque l'arrivée de cette technol fait que tous les produits technologiques ou manufacturés, industriels parviennent et bousculent l'ensemble de la société. Est-ce que c'était clairement une crainte par rapport à l'avancée technologique extrêmement rapide de plus en plus actuellement, ou c'était juste un procédé narratif pour pouvoir avoir l'ensemble de la technologie dans un univers plutôt fantastique ou de fantasy?
Alors moi, j'avais aucune volonté critique ou de cet ordre-là. L'idée, ça venait, il s'avère que dans mes pratiques musicales, je suis très intéressé par la musique ancienne, j'en joue pas mal, y compris donc la musique médiévale. Et il m'est arrivé à ce moment-là de me retrouver dans des fêtes médiévales. Et pour moi, c'est un espace insupportable, parce que cette espèce de mélange entre de la pseudo-reconstitution historique et puis cette réalité présente, omniprésente, qu'on ne peut pas cacher. D'ailleurs, les fils électriques, le type qui joue de la vielle à roue, alors que la vielle à roue n'est pas du tout un instrument médiéval, mais bien plus tardif. L'autre, qui est le cracheur de feu, qui, lorsqu'il lève son bras, sa manche, la manche de son vêtement médiéval se baisse et on voit sa montre à quartz, etc. Voilà, j'ai toujours trouvé ça profondément grotesque, les fêtes médiévales, et j'avais cette image-là, et j'ai voulu faire subir la même chose à un univers médiéval entier, quoi, un univers médiéval fantastique, en me disant, voilà, cet univers, en fait, n'est qu'une décharge, une poubelle, pour tous les rebuts. Alors c'est même pas la technologie, c'est les rebuts, quoi. C'est les trucs qu'on n'utilise plus, les vieilles télés des années 50, on balance tout ça dans un
sac plastique Intermarché.
Les sacs plastiques Intermarché, les vieilles boîtes de conserve périmées qui n'ont pas été consommées, et ainsi de suite. Et tout ça vient salir, violer presque un univers de fantasy qui, par principe, l'univers de fantasy, justement, il doit être totalement opaque, clos par rapport à notre réalité. Et là, il y a cette espèce d'omniprésence de la réalité, comme dans les fêtes médiévales, où on ne peut pas s'empêcher de voir les multitudes d'anachronismes grotesques qui parsèment ces moments-là. Voilà.
Ce processus narratif a été utilisé un petit peu après toi par Stéphane Beauverger dans le Déchronologue.
Ouais, mais je lui ai fait un procès, d'ailleurs.
tu l'as lu? Qu'est-ce que tu en as
pensé? Non, je ne l'ai pas lu. D'accord. Non, je l'ai pas lu. Non, je lis pas les mecs qui me piquent mes idées, quoi. Non, je l'ai pas lu. Ça fonctionne sur le même.
Du coup, c'est pas que ça fonctionne sur le même principe. C'est que on est dans les Caraïbes au XVIIe siècle, et ce qu'ils appellent des maravillas, des objets technologiques, mais ça peut être des boîtes de conserve, une montre à quartz ou une radio à pile. Arrive dans ce monde-là, et du coup, sur un procédé narratif, finalement, avec de grosses similarités, on arrive à des textes vraiment différents, et du coup, je posais la question si tu l'avais lu. Et
non, coup, je l'ai pas lu, mais du coup, je vais le lire et je vais lui faire un procès. Donc, mais c'est pas le seul. En plus, c'est pas non plus le cœur de la narration dans Ferry pour les ténèbres. C'est plus, à la limite, pour moi, c'est plus un élément de décor. Et d'autant plus que cette pollution là, elle n'est pas que matérielle. Il n'y a pas que les objets qui sont précipités dans l'univers de Ferry pour les ténèbres. Il n'y a pas que les rebuts technologiques. Il y a aussi tous les rebuts idéologiques. Toutes les idéologies pourries du XXe siècle, du XIXe siècle, etc., contaminent aussi dans les esprits petit à petit dans Ferry pour les ténèbres. Donc on a un preux chevalier qui commence à disserter sur Mussolini. Voilà.
Tout à fait. Et tout ça s'allie à une galerie de personnages assez impressionnant. Moi, je pense à Jectin, le sculpteur assez haut en verve, on va dire. Ils deviennent comment? Est-ce que c'est quelque chose qui t'importe énormément? Est-ce que tu as plutôt l'idée des personnages et comment ils vont réagir à ce monde-là, où l'intrigue est plus importante?
J'accorde une grande importance aux personnages. C'est absolument, absolument fondamental dans un récit. C'est le mettre de côté les personnages ou ne pas suffisamment les nourrir, c'est terrible, c'est fondamental. Le personnage, c'est ce qui fait le lien premier avec le lecteur. Donc moi, je leur accorde une grande importance, et une importance affective d'ailleurs. J'ai une relation avec eux le temps de l'écriture. C'est des amis ou des connards, hein, que j'ai envie de... ou parfois les enfants que j'aurais aimé avoir et que j'ai pas eu, ou etc. etc. quoi. Il y a cette relation là avec mes personnages. Sinon ça fonctionne pas de toute façon. Et c'est d'ailleurs la part émotionnelle dans l'écriture. Pour moi, elle naît des personnages. Elle naît du rapport avec les personnages. Bon, après, quand le bouquin est fini, cassez-vous, quoi. Enfin, bien sûr. Hein, sinon, ça va, ce sera encombrant chez moi. Je vivrai en permanence avec 250 personnages fictionnels.
Mais est-ce que, du coup, le lien avec la graphie qui peut venir après, alors, moins dans Féerie pour les ténèbres, parce que ce que Aurélien Polis, il faut saluer aussi énormément ce que Aurélien Polis a pu faire avec ton œuvre, je trouve ça magnifique. Mais du coup, votre collaboration s'est prolongée dans d'autres romans, et du coup, on voit particulièrement sa mise en image dans Sam. Est-ce que ça brise cette amitié que tu as avec tes personnages, ou est-ce que
le fait qu'il y ait une traduction graphique de mes personnages, ah non, ça me pose aucun problème. Ouais. Ça me pose aucun problème si c'est bien fait. Enfin, si voilà. Après, si un jour j'étais adapté par un dessinateur qui dont le travail me pèse, quoi. Non, ce serait épouvantable. Mais non, ça me pose d'autant moins de problèmes que alors que j'ai une visualisation très précise des espaces, des décors, etc. J'ai une visualisation très floue du physique des personnages. Donc, me confronter après à une incarnation physique qui ne serait pas de mon fait, ça me pose pas de problème. Non, formidable. Et alors là, en l'occurrence, pour Sam, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est le graphiste, Aurélien Polis, qui m'a proposé l'image d'un personnage sur lequel j'ai construit mon récit.
Et du coup, sur votre troisième collaboration qui est Europol, comment ça s'est passé
Ben non, en fait, c'est notre première collaboration, c'est parce que c'était à l'époque de
2006.
Enfin, on s'en fout, quoi. Ouais. Ça, c'est l'histoire.
La dernière dont on parle, on va dire.
Voilà, la dernière dont on parle. Bah, écoute, ça c'est bien, ça c'est pareil. Mais son travail a été plutôt de créer des pseudo-documents, des pseudo-pubs des années 50, etc., etc.
Et du coup, ce travail avec lui, vous avez d'autres projets ensemble ou c'est
Dans l'immédiat, non. Lui, il travaille là, actuellement, il travaille avec Thomas Day. Ils ont un grand et beau projet graphique de comics. Peut-être qu'on reprendra, qu'on aura des projets à nouveau ensemble.
Chouette. Et du coup, quels sont tes projets actuellement?
Adopter un deuxième chien dans un premier temps.
C'est extrêmement intéressant, mais je parlais plutôt littérairement.
Mais c'est complètement littéraire, en fait. Mon rapport à l'animal va être fondamental dans mes prochains livres, donc c'est totalement... Toute expérience humaine est totalement littéraire, et en particulier la relation à un animal. Et puis, sur le plan littéraire, alors là, dernièrement, j'ai sorti un bouquin de zombies, mais très à ma sauce. Et du coup, comme ça m'a considérablement amusé de travailler là-dessus, j'ai décidé de filer l'idée en faisant une série, non pas un truc en plusieurs tomes, hein, ça j'ai plus envie de faire, c'est un peu saoulant, mais de poser mon regard particulier sur d'autres genres du cinéma d'horreur, parce que je suis un grand fan de cinéma d'horreur. Et je suis attristé par la médiocrité du cinéma d'épouvante depuis une quinzaine d'années. Et voilà, j'ai envie de visiter des genres horrifiques. Et donc mon prochain, après avoir fait un arrêt sur la station zombie, je vais faire un arrêt à la station slasher. Et je veux travailler, une source de médiocrité dans le cinéma d'horreur, les slashers, ça se pose là. Et justement, comment transcender ça, essayer d'en faire quelque chose d'original, d'intéressant, d'intense, etc. Voilà. Là, c'est...
Je pense qu'il y en a des bons, par contre, des slashers sur lesquels tu pourrais te reposer.
Non, des bons. Si, il y en a un ou deux, mais les titres ne me viennent pas. Mais justement, c'est très intéressant de partir d'un sujet d'une thématique qui est rudimentaire quelque part, rugueuse, rudimentaire, le tueur masqué avec une machette, dit comme ça, c'est pas super glamour, et d'en faire quelque chose d'intense et d'intéressant, voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que sinon on va continuer à parler, je vais me faire engueuler à la librairie, parce qu'après il est en dédicace, donc n'hésitez pas. Quelqu'un? Une fois? Deux fois? Trois fois? Bon, je me permets.
L'espèce de coussin orange là, non.
Ouais.
Non, c'est rien, c'est des retours de drogue.
Je vois.
Ouais.
Moi, j'avais une autre question, c'était, du coup, je vais me permettre, par rapport à tes titres, ils sont toujours très remarquables et vraiment différents de l'ensemble de la production. Comment ils deviennent? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu importes énormément d'importance, ou est-ce que c'est du travail avec ton éditeur?
Non, alors j'y accorde pas énormément d'importance parce que je n'ai jamais le titre quand je commence à écrire, ou très rarement. C'est totalement secondaire quand j'écris, en tout cas. Après, il faut bien un titre. C'est avec seulement un numéro, les éditeurs font la gueule. Et c'est très important, un titre, indiscutablement. Et après, je cherche ce qui sonne agréablement à l'oreille. Bon, Ferry pour les ténèbres, c'est directement un clin d'œil à un très beau titre de Céline qui est Ferry pour une autre fois. Et je trouvais que prendre en plus un titre de Céline pour une œuvre de fantasy, c'était... Et voilà.
Il y a d'ailleurs un côté un peu célinien, je trouve, dans tes nouvelles, dans Diapason des mots et des douleurs. C'est l'une de tes références principales.
C'est vachement vendeur hein, comme titre. Alors c'est les mots et des misères, mais c'est pas plus vendeur en fait. Le diapason des mots et des... Non mais c'est pas grave. C'est le truc, on va passer une super bonne journée, on va lire le diapason des mots et des misères. Oui, c'était quoi ta question?
Et, du coup, Céline est donc l'une de tes références.
Ah oui, fondamentalement, oui. Ça fait partie des gens que j'emmènerai dans ma tombe, oui.
Ouais. Il est déjà mort. Hein.
Oui, mais moi, effectivement, je l'emmènerai dans ma tombe. Non, mais je me ferai incinérer.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus. Et merci à Jérôme Noirez.
Merci.